Eh bien, merci Christian Merlin et à la semaine prochaine. Ça a été l'une des périodes les plus fastueuses et les plus créatives dans toute l'histoire de l'Opéra de Paris. Ce qu'on appelle parfois l'ère Liebermann n'a pourtant pas duré très longtemps, 7 ans à peine, mais qui ont suffi à construire une légende et surtout à changer durablement toutes les pratiques du lyrique. En bref, la bascule vers l'opéra moderne. Notre invité du mois de juillet en fut, comme bras droit, l'un des témoins privilégiés. Mémoire d'opéra, Hugues Gall, deuxième, les années Liebermann.
C'était Janowicz ou c'était quoi ça?
Ah bah écoutez, c'était plein de monde. Hugues Gall, bonjour.
Bonjour.
C'était Janowicz, c'était Frédéric Affranstadt, c'était Mireille Lafreni, Gabriel Baquier, José Van Damme. Il y avait tellement de monde là-dedans.
Inoubliable.
Donc, inoubliable, ces Noces de Figaro, dirigées par Scholti, mises en scène par Giorgio Strehler. C'était à l'Opéra de Paris, enfin, plutôt à Versailles, parce que les premières étaient à Versailles de ce spectacle de 1973.
Hein. Oui, Liebermann avait eu l'idée géniale de commencer son son règne, son ère, comme vous dites aujourd'hui, par deux représentations exceptionnelles des Noces de Figaro données dans le cadre remarquable du Théâtre Royal de Versailles. Et donc les répétitions ont eu lieu d'abord au Palais Garnier, puis ensuite on s'est transporté à Versailles, on répétait beaucoup. Strehler était dans un état d'excitation et de nervosisme avancé, mais enfin il a travaillé prodigieusement. Scholti a eu la grippe, est arrivé très tard. Il y a eu quelques frictions au moment de la rencontre de ces deux grands hommes. Mais finalement le spectacle a eu lieu dans les conditions que l'on sait, qui est devenu absolument mythique, c'est le mot qui convient avec la distribution que vous rappeliez, et de voir ces artistes dirigés par un génie qui était Strehler et un autre talent extraordinaire qui était Scholti, c'est quand même quelque chose qu'on aime avoir vécu.
1973, c'était un grand coup que posait là Rolf Liebermann. Vous vous rappeliez qu'on appelle ça maintenant les quelques années qu'il a passées à l'Opéra de Paris, entre 1973 et 1980, l'ère Liebermann. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose d'aussi important qu'on puisse appliquer ce mot d'ère à cette période?
Écoutez, d'abord, évidemment, l'opéra est ma vie, mais enfin, de faire de l'opéra un marqueur de l'importance que l'on donne à ce qui est caractérisé par le mot ère. Et puis Liebermann lui-même se moquait de ce vocable. Non, disons que c'était une époque très importante, le mandat, les années Liebermann, ça va très bien, ça se suffit. Et je rappelle un souvenir un peu assez amusant, puisque comme vous le savez peut-être, Liebermann n'est pas arrivé tout de suite. On l'a nommé pour prendre ses fonctions en 73, on l'a nommé en 71. Et en attendant, on a désigné, après la mort de René Niccoli, qui était administrateur, Daniel Lesur, un bon compositeur, qui est devenu donc l'administrateur, qui était flanqué de Bernard Lefort, un bon connaisseur de l'opéra, et qui a été directeur de l'opéra jusqu'à l'arrivée de Liebermann au 1er janvier 73. Et puis, ces années Liebermann se sont déroulées, comme vous le savez, et Bernard Lefort a été nommé par le ministre suivant au poste de directeur. Il a réuni sur le plateau de l'opéra l'ensemble des personnels pour se présenter, en tout cas pour faire une déclaration, dont je crois me souvenir un des moments les plus marquants. Il a dit à tous ces artistes, à tous ces machinistes, en mon absence, Monsieur Liebermann. Évidemment, si c'était en mon absence, admettons que c'était peut-être une ère.
Alors, Hugues, vous avez été très près de Rolf Liebermann pour le travail durant toute cette période. On peut même dire, puisque la dernière fois, lors de notre précédente émission, on a dit que vous étiez arrivé à l'Opéra de Paris, enfin ce qu'on appelait RTLN, Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux, en 1969. Et c'est un peu vous, quand même, qui êtes allé chercher Rolf Liebermann.
Je ne suis pas allé le chercher. J'ai suggéré cette idée, qui était d'ailleurs une idée que je n'étais pas le seul à avoir. Enfin, Jacques Duhamel, le ministre des Affaires culturelles, comme on disait à l'époque, Georges Pompidou et tout ce qui comptait dans le plus haut de la politique française, s'est rallié à l'idée de nommer à la tête de cet opéra que l'on voulait réformer pour lui donner une nouvelle vie, quelqu'un qui fût extérieur à l'univers français, qui n'avait pas, dans les dernières années du moins, donner ce que l'on espérait. Et de nommer à la tête d'une institution qui n'avait jamais connu d'étrangers depuis Lully, était quand même quelque chose dont on ne mesure pas du tout aujourd'hui le scandale que ça a provoqué pour certains commentateurs. Je ne pense qu'à Bernard Gavotti, qui était un éminent critique musical du Figaro, qui n'en est pas encore revenu, encore que par la suite les choses se sont arrangées. Mais je pense aussi à un journal comme l'Aurore, qui a lancé une campagne dont l'antisémitisme n'était pas absent. Non, vraiment, ça a été dur, mais c'était le prix à payer, sans doute, pour relever l'opéra, de le mettre d'entrée de jeu au meilleur niveau mondial, en le dotant d'ailleurs, parce que Liebermann n'est pas venu sans biscuit, il n'était pas demandeur, on est allé le chercher, il était prêt à se retirer d'un métier qu'il avait exercé à Hambourg pendant 14 années brillantes. Il a posé un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions figurait naturellement une dotation, un budget, une autonomie, une liberté, le fait d'être accompagné dans cette aventure par son ami Scholti, par une femme remarquable dont on ne connaît pas sur ces ondes-là le nom, mais l'importance qui était réelle était Joan Inkpen, qui avait été auprès de Scholti pendant toutes ces années à Covent Garden, celle du rôle du casting director, comme on dit maintenant, femme exceptionnelle.
C'est la personne qui distribue les productions.
La personne qui savait où était qui et qui était quoi et qui faisait quoi et qui proposait, voilà, et qui dans le quart d'heure vous faisait une saison entière, j'exagère, mais enfin c'était quelqu'un d'extraordinaire qui par la suite est allé faire la même chose pour Jimmy Levine Omet. En fait, c'était une équipe à laquelle Lieberman m'a demandé de contribuer. Et c'est là que j'ai appris ce que je crois être mon métier.
Oh,
un son pas toujours terrible, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu ancien, 1974, et puis je sais pas comment ça avait été capté tout cela, mais enfin, le résultat et l'enthousiasme du public, on le sentait bien, c'était ces Contes d'Hoffmann de 1974, donc à l'Opéra de Paris, avec entre autres Christiane et la Pierre, qu'on entendait là en Antonia, mise en scène de Patrice Chéreau, l'un aussi des grands spectacles de la période Rolf Liebermann à Paris. Hugal, lorsqu'on entend ceci, quand on parle de ces mises en scène, eh bien c'est quand même le nom du metteur en scène qu'on met en avant. J'ai l'impression qu'avec Liebermann, c'est la première fois que, dans l'histoire de l'Opéra de Paris, en tout cas, que le metteur en scène passe au-dessus des chanteurs, au-dessus des chefs d'orchestre.
C'est un effet d'optique, parce que personne ne considérait à l'époque que Strehler était plus important que Scholti. Personne ne considérait que Chéreau était plus important que Georges Prêtre, qui en l'occurrence dirigeait ces représentations-là. Mais enfin, oui... Trop longtemps ou très longtemps, les productions, les mises en scène se résumaient à des décors, parfois très beaux, mais sans direction d'acteur et sans conception dramaturgique. C'est arrivé évidemment après la guerre, avec Wilhelm Wagner et tous ces grands metteurs en scène qui ont introduit le théâtre. Les années 60 ont marqué la fin de tout un système qui existait depuis, j'allais dire, depuis toujours, enfin depuis le 19e siècle, celui d'une troupe de chanteurs qui était là et qui chantait tout en français. Ça s'est un peu atténué, si on peut dire. En tout cas, il y a eu des moments de mixage entre chanteurs allemands dans certains Wagner et chanteurs français. J'ai entendu, moi, le Vaisseau Fantôme avec des chanteurs allemands et puis des chanteurs français. Les uns chantaient en allemand, d'autres en français. C'était une époque de transition. C'était le fait du public, c'était aussi l'exigence des chefs d'orchestre qui n'étaient pas plus tous français en tout cas, c'était de chanter les ouvrages dans la langue originale. Certains d'ailleurs, c'était mieux. Dans d'autres cas, on pouvait se demander s'il valait pas mieux chanter ça en suédois, si on était suédois, plutôt que chanter de l'italien. Enfin, ça c'est un autre discours. Il est vrai que l'internationalisation, la mondialisation des distributions, le fait d'avoir souhaité, comme ça a été le cas pour l'époque Liebermann, mais qui était un projet et un modèle qui venait de Londres. En réalité, c'est dans les années 60 que, 50 et 60, que David Webster, qui était un grand intendant de l'Opéra Royal de Londres, avec Scholti, avait développé l'idée d'avoir une distribution dans la langue originale pour faire pièce à l'English National Opera, où l'on chante d'ailleurs toujours les ouvrages en anglais, une distribution internationale fixée pour une série de représentations, né variétur, avec dans la fosse l'orchestre qui avait répété, ce qui était tout à fait nouveau pour donner une qualité égal à toutes les représentations, avec le souci absolument minutieux, exigeant qu'a toujours eu Liebermann et que j'ai eu pour ma part aussi par la suite de donner à la dernière représentation, au dernier spectateur de la dernière série, une exécution de la même qualité que celle de la première. Ça a donc été, pour l'Opéra de Paris notamment, mais pour donc tous les théâtres d'Europe maintenant, sauf Vienne, une révolution.
Ce qui a été aussi important avec l'arrivée de Rolf Liebermann, c'est qu'il était compositeur, musicien. Il avait cette sorte de légitimité qui faisait qu'à la fois il pouvait, lorsqu'il avait une idée, l'imposer aussi artistiquement.
C'est-à-dire que c'est vrai que depuis lui, Bojanquino, qui lui a succédé lointainement, était un merveilleux pianiste, n'était pas compositeur. Rolf avait été chef d'orchestre, bien qu'il n'en ait pas fait sa carrière. Il était un compositeur important dans un langage qui était le sien, mais enfin qui était plutôt celui du dodécaphonisme, de la musique sérielle. Il était un homme de théâtre, il l'avait mis en scène lui-même, enfin c'était un oiseau rare. Et je pense pour ma part que ces oiseaux rares sont difficiles à trouver aujourd'hui. En tout cas, je n'en faisais pas partie, et c'est probablement mon seul regret, parmi d'autres, c'est de ne pas avoir été musicien. Je crois qu'être à la tête d'un opéra, l'idéal, c'est effectivement d'être Gustav Mahler, d'être Karajan, ou d'être Liebermann, d'être Richard Strauss, qui était un grand intendant lui aussi. Si on n'a pas la conviction qui est la mienne, qu'un théâtre d'opéra, c'est d'abord un théâtre musical, sur lequel se déroulent des événements qui tiennent du théâtre, mais enfin que d'abord l'orchestre, les chœurs, la distribution et la façon dont tout ça respire est absolument dicté par une conception musicale de la saison, par une conception musicale du spectacle, par une exigence et une autorité qui ne procède que de... peux pas dire qu'un directeur comme ceux qui m'ont suivi ou moi-même ayons manqué d'autorité, mais enfin ma légitimité n'était pas du tout de la même, du même niveau, de la même nature que celle de Lieberman ou d'autres. Évidemment pas, il faut le savoir.
Vous avez cité un troisième metteur en scène après Strehler et Chéreau, c'est Lavelli. Eh bien le voici ici dans son Faust. En 1975, au Palais Garnier, c'était un extrait du Faust de Lavelli, vrai qu'on peut le dire comme ça, qui a été un personnage important, Georges Lavelli aussi, pendant l'ère Lieberman, Ugal. Qu'est-ce qu'il y avait de si fondamental dans ces mises en scène, celle-ci par exemple de Faust, qu'elle a à ce point marqué le public, on pourrait dire l'histoire même de la mise en scène d'opéra?
Bon, c'était une forme de viol de la conscience française traditionnelle. Faust, c'était la plume au chapeau, l'épée au côté, et naturellement tout le décor du vieux théâtre du 19e qui avait perduré jusqu'à cette époque-là. Et quand Lavelli s'est saisi de ce mythe, il l'a transposé à une époque qui était plutôt celle de la composition par Gounod, 1850, 60, quelque chose comme ça, des costumes de bourgeois de l'époque, le retour des soldats, gloire immortelle de nos aïeux, par des éclopés entrant du front. Tout ça était évidemment, à l'époque, difficile à avaler et néanmoins génial. Et c'était une production que j'ai beaucoup aimée, que j'ai d'ailleurs redonnée sous mon mandat bien longtemps après. Je l'avais surnommée la Jeanne Calment de nos mises en scène, parce qu'elle était increvable, mais était d'ailleurs difficile à remplacer. On l'a vu par la suite, il faut être très délicat avec le patrimoine. Je ne sais pas si c'est violer le duc, mais en tout cas, pour ce qui concerne le Faust de Lavelli, il n'a pas été remplacé. Et j'ai l'impression qu'après, par la suite, on a plutôt tué cette musique et cet ouvrage, qui est tout à fait remarquable, en ne maintenant pas, contre vents et marées, une production qui faisait date et qui ne datait pas.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Vous évoquiez tout à l'heure, Hugal, la manière dont Rolf Liebermann a été accueilli au début, c'est-à-dire comme quelqu'un qui venait d'Allemagne, qui était juif, donc beaucoup de critiques là-dessus, qui aujourd'hui nous semblent complètement hors de saison, mais c'était là. Et puis pas mal de scandales, parce que celui du Faust dont on parle à l'instant était bien réel. Il faut dire qu'il y avait des forces contre lesquelles vous vous battiez, vous et Rolf Liebermann à l'Opéra de Paris, qui étaient publiques pour certaines, qui étaient internes pour d'autres. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de forces contraires à cette époque.
Les forces internes étaient indéniables, mais enfin elles ont été très rapidement maîtrisées, calmées. Je dis pas que Rolf était Orphée, mais enfin, quand les personnels de l'opéra, qui sont tous sauf sots, ont compris qu'ils avaient vraiment trouvé un maître, ou maître dans le sens de quelqu'un qui savait de quoi il parlait, c'était vraiment la première fois depuis longtemps. Et ils ont compris qu'on les menait dans le chemin juste. Pour l'extérieur, ça a été plus compliqué parce que, comme vous le savez, c'était la première fois qu'on avait un étranger à la tête de cette institution si française, pour le meilleur et pour le pire. Et sans le soutien sans faille, d'abord du président Pompidou, puis du président Giscard d'Estaing, et puis des ministres qui se sont succédés, cette aventure n'aurait pas eu lieu. On n'en parlerait pas aujourd'hui, on ne demanderait pas si c'est l'ère ou les mandats Liebermann. Ça n'aurait pas continué longtemps. Et le public, évidemment, a été là, l'opinion internationale, et puis la confiance des chanteurs. Tout ça est revenu assez rapidement, finalement, et les remous se sont apaisés. En surface, dans le fond, la présence de Liebermann et sa politique qui ne devait rien à personne, si ce n'est à lui-même, à sa connaissance et à l'ensemble des amis qui le suivaient, violait aussi l'entre-soi. On ne peut pas comprendre ce que ça représente si on ne sait pas que cet univers très très sympathique de musiciens français, de compositeurs était là, tenait certaines des positions importantes, se passaient commode mutuellement, etc.
Attends, vous parlez de qui? Parce qu'on peut dire les noms aujourd'hui.
Non, mais enfin, disons que oui, on peut imaginer que Monsieur Bondeville, qui était un homme remarquable et un très très fin musicien, étant directeur de l'opéra, parce que c'était un titre qui existait à côté de celui d'administrateur, n'était pas imperméable au chant de ses confrères de l'Académie des Beaux-Arts, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de la vie. Ça se serait situé à un autre niveau. Personne n'aurait trouvé ça scandaleux, mais enfin, quand même. Et donc, Liebermann n'appartenait à aucune de ces chapelles, à rien de tout ça, ayant beaucoup de respect pour la tradition française. Il était francophone, francophile, il connaissait Molière par cœur, etc. Mais enfin, de là à dépendre de ces gens-là et de ces salons, ce qui n'était d'ailleurs plus tout à fait des salons, tout ça était autre chose, un autre monde, et c'est un peu, prendre une comparaison qui n'en est pas une, mais enfin pour dire ce que j'ai ressenti moi en 76 lorsque j'étais à Bayreuth pour la première série de la tétralogie mise en scène par Patrice Chéreau, dirigée par Boulez et décorée par Peduzzi, c'était à cette façon un viol de la conscience allemande. Il est évident que c'était une révolution qui entraînait des formes de révolte. Ça a été rapidement calmé parce que la vérité, si on peut dire, en tout cas la beauté, la justesse de cette politique s'est affirmée très vite, de même que ces mises en scène de Patrice à Bayreuth sont très vite passées dans la légende. Enfin, les premiers kilomètres, les premiers mois, les premières saisons, c'est pas évident. D'ailleurs, à un moment donné, tout ce monde-là s'est retrouvé après, entre soi, après que la mer Rouge se soit refermée.
Un extrait d'Electra de Richard Strauss, capté en 1975 à l'Opéra de Paris. C'était Birgit Nilsson qui chantait ici Electra, à ses côtés qu'on n'a pas entendu là, mais elle n'était pas loin. Léonie Rizanek ou Christa Ludwig, tout ça dirigé par Karl Böhm, dans la mise en scène de Auguste Everding. Un spectacle, bien sûr, Rolf Liebermann. Un spectacle qui devait être électrisant sur scène, non, Gall?
C'était un spectacle extraordinaire. Birgit était unique, et les autres aussi. Je dois dire que l'ensemble... C'était électrisant, pour prendre un mot un peu bête, mais qui a pourtant connu un chaos. Un jour, le président Giscard d'Estaing avait décidé de recevoir son homologue allemand, le président Walter Scheel, à l'occasion d'un sommet franco-allemand, et un grand gala, on donnait Electra, et tout le gouvernement français était là, et le gouvernement allemand aussi. Et puis, au bout d'une heure, tout s'éteint. Et donc, ça s'est pas marqué tout de suite sur la scène, parce que la mise en scène était très sombre. Mais enfin, les musiciens sans lampe ne pouvaient plus continuer à jouer. Alors Böhm s'est arrêté, tout s'est arrêté, Birgit Nilsson, hein. On s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une panne générale sur tout le nord de Paris. Était-ce voulu ou était-ce... Enfin, peu importe. Je peux vous dire que ce sont des 15 minutes qui comptent dans la vie d'un homme. Et en l'occurrence, j'étais au front, puisque j'étais entre la loge des présidents. Giscard d'Estaing disait, mais... Alors, je lui dis, monsieur le président, voilà. Cela dit, pour revenir à la représentation, j'étais allé faire une annonce. Et puis, ayant présenté toutes sortes d'excuses, je ne sais pas ce que j'ai inventé, j'entends une petite voix qui était derrière et qui me dit... Und ich, c'était Birgit Nilsson, tout le monde l'avait oublié. Elle était à côté du trou dans lequel elle avait essayé de trouver la fameuse hache. Et on l'avait oublié, alors je l'ai prise et elle est sortie et on a recommencé plus tard. Mais enfin, le spectacle a été repris et redonné. Birgit Nilsson, inoubliable. Christa Ludwig aussi, bien sûr. Et quant à Rizanek, extraordinaire. Bon. Beau souvenir.
Ouais, beau souvenir, mais compliqué. Il y a des moments où le cœur bat très vite quand on est directeur d'opéra. Hein.
Oui, il y a des moments où le cœur bat vite, on a le trac, c'est normal. On partage l'émotion de quelque chose qu'on a voulu voir naître, qui est en train de naître, qui se poursuit. On n'est jamais très tranquille sur son fauteuil. C'est pour ça que j'aime beaucoup être chez les autres, dans les théâtres. Je suis plus détendu, encore que on peut partager l'émotion et l'angoisse de ses collègues. Oui, enfin, vous savez aussi, il y a une chose, je ne dis pas qu'on s'habitue aux choses, mais enfin, la première fois que quelque chose vous advient, comme l'annulation in extremis d'un chanteur, ou l'accident qui fait que Madame Caballé tombe dans les pommes, pour parler de façon triviale, pendant un concert qu'elle donne, et qu'on ne sait pas comment continuer, tout ça, et annoncer ça au public, la suspension d'une représentation aussi pour des raisons de santé, etc. Tout ça, ce sont des choses qui adviennent, pas trop souvent, Dieu soit loué, mais enfin qui sont des moments difficiles, que l'on vit dans son âme et probablement aussi dans son corps, et auxquels on finit non pas par s'habituer, mais enfin disons, on prend ce type d'événement avec une forme de philosophie. Voilà, c'est comme ça. Parfois ça arrive, le spectacle continue.
Thank you.
Extrait du Don Giovanni de Mozart en 1975, donné au Palais Garnier en commandeur. C'était ici rien moins que Kurt Moll qu'on entendait. Quelques phrases de José Vandamme en Leporello, Roger Soyer en Don Giovanni. Il y avait aussi, qui était passé sur la scène, Kirite Kanawa, Margaret Price, pour ne citer que Scholti, toujours qui dirigeait ceci. On n'en revient pas quand même de ces distributions pendant cette ère, période, allez, Liberman à l'Opéra de Paris. Elle était quand même prestigieuse. Elle était tout le temps, c'était juste sur quelques spectacles.
Non, c'était le niveau, hein, quand disait Lieberman, c'était le niveau. Si ça n'était pas Curie, c'était Margaret. Si c'était pas Margaret, c'était Curie. C'est Soyer, c'était Raimondi qui commençait sa carrière extraordinaire de Don Juan, etc., etc. Alors, c'était pas toujours Scholti. Quand c'était pas Scholti, c'était parfois Maqueras ou des gens qui sont devenus très célèbres par la suite, mais enfin à l'époque était totalement inconnu, en tout cas du public français. Non, c'était tout. Bon, voilà, c'était l'Opéra de Paris.
Je reviens sur cette histoire de distribution. Toujours sur le même sujet des distributions. Hugal, on était à une période, là, les années 70, on a l'impression qu'il y a une sorte de tuilage de génération. On vient d'entendre un Kurt Moll, c'est-à-dire des générations qui ont déjà 20 ans, 30 ans de carrière, plus pour certains d'entre eux. Et puis une nouvelle génération de chanteurs dans la mondialisation de l'opéra. On va voir arriver bientôt Placido Domingo, Frederica Frontstadt. Comme si finalement il y avait là, je ne veux pas dire un âge d'or, mais enfin une conjonction de talents qui était quand même assez heureuse.
Je prendrais les choses différemment. Il y a une succession de générations heureuses, mais pas toujours pour le même répertoire. À l'époque, on a entendu Birgit Nilsson, qui était pour le coup, elle, déjà dans le métier depuis longtemps. Mais pour ce qui concerne les grands opéras de Wagner, on avait du mal à distribuer une Brunhilde, un Tristan, tout ça. Dans ces années 70, c'était moins évident qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit toutes les tétralogies se succéder avec plus ou moins de bonheur, mais dans l'ensemble d'un très bon niveau, que ce soit à Bayreuth ou ailleurs. Il y a eu un creux de ce point de vue-là. Et je pense que on est pour ce répertoire-là beaucoup mieux doté aujourd'hui. Ce qui est moins vrai pour les grands ouvrages italiens, je crois.
Allez, on va écouter ici Kirite Kanawa, qu'on a nommé il y a quelques minutes. C'est dans Così fan tutte.
Thank you.
Le trio fameux au premier acte de Così fan tutte de Mozart en 1976 au Palais Garnier. C'était Joseph Krips qui était à la baguette, la mise en scène Jean-Pierre Ponel pendant cette période. Rolf Liebermann, vous étiez donc juste à ses côtés. À quel poste d'ailleurs précisément, Hugues Gall ?
J'avais un titre qui était d'administrateur adjoint. Liebermann était l'administrateur, j'étais l'adjoint. Un peu le factoton.
C'est ça, pour tout apprendre. Vous disiez tout à l'heure que vous avez vraiment appris votre métier à l'opéra avec Rolf Liebermann. Précisément, quelles sont les choses, enfin les leçons qui ont été les plus primordiales pour vous durant cette période ?
Ah, écoutez, l'exigence de, par tous les moyens moraux, acceptables, de maintenir la qualité, de l'assurer, quel que soit la période ou la série de représentations que j'ai. Et aussi l'idée de l'homogénéité, de l'exigence à tous les niveaux, oui, de la perruque, de la coupe du costume, de la lumière, et puis du service de l'ensemble par des techniciens attentifs et professionnels, ce qui est le cas naturellement à l'Opéra de Paris. De ce point de vue-là, il n'y a pas de discussion. Et donc, c'était ça ce que j'ai appris, ce que j'ai essayé de mettre en pratique, probablement avec moins de talent que mon maître, mais enfin, tout de même, c'est la leçon.
On a souvent reproché à Rolf Liebermann d'avoir dissous la troupe des chanteurs. Vous nous avez raconté l'émission précédente, c'est plutôt vous qui l'avez fait avant son arrivée.
Ben, c'est moi, oui, j'en ai porté la responsabilité, mais Liebermann n'y était pour rien. La troupe avait été... On avait décidé de la dissolution de cette troupe au moment de le grand remue-ménage de 69-70. Les temps étaient différents, les temps étaient changés. Une fois de plus, cette troupe avait été prestigieuse, au long de nombreuses décennies, elle avait bien servi la musique française et l'autre, et elle arrivait à la fin de ces années 60 à être composée de beaucoup de chanteurs très valeureux qui n'étaient plus aussi heureusement dotés vocalement qu'ils l'avaient été, d'autres qui étaient merveilleux et qui arrivaient, Christian Dapierre, Jeanne Berbier, Sénéchal, tout ça. Ben, quand ils étaient là, c'était bien, mais ils n'étaient pas toujours là. Baquet était inoubliable, Baquet n'était pas toujours là non plus. Régine Crespin, on l'a vu, elle chantait Dieu soit loué sur les scènes du monde entier. Et puis il y avait tout de même un reliquat, et non des moindres, de chanteurs qui n'auraient jamais dû appartenir à cette troupe, qui avait été engagée parce que, voilà, l'une était la femme du sénateur, la deuxième était la maîtresse d'eux. Quelque chose qui, Dieu soit loué, a disparu totalement du paysage français, du moins je l'espérais. Et tout ça faisait quelque chose qui, lorsque les spectacles avaient lieu, je parle de la fin de ces années 60 que j'ai vécu, en tout cas que j'ai, par moments, de choses qui étaient inacceptables. L'opinion publique dans une production de l'Orphée aux Enfers à l'Opéra Comique, l'opinion publique, on n'entendait pas au premier rang. Le Monterone dans la production, la vieille production du Rigoletto de l'Opéra, c'est lui qui maudit, si on l'entend pas, il y a plus d'ouvrage. Évidemment, on l'entendait pas, mais il était très bien avec la dame qui s'occupait d'eux, voilà. Tout ça était un entrelac de connivence, d'amitié, de fidélité, que sais-je, de compromission, au fond, qui ont rendu inéluctable la dissolution de cette troupe. Mais par moments, les bons éléments se retrouvaient et il m'est arrivé d'entendre des spectacles surprenants de qualité. Vanzo était un merveilleux artiste, voilà, René Massard, pas citer tout le monde, Jeanine Michaud, enfin tout ça, il y avait des artistes magnifiques, mais c'était la fin de la comète.
Laissez-moi passer.
La mort de Carmen et les dernières mesures de l'opéra de Georges Bizet, chanté par Teresa Berganza, Placido Domingo, c'était en 1980 sur les planches de l'Opéra Comique sous la direction de Pierre Dervaux.
Mémoire d'opéra, Lionel Esparza, France Musique.
Hugal, parmi ce qu'a pu faire à l'Opéra de Paris Rolf Liebermann, alors pas la dissolution de la troupe, en revanche, la réforme du chœur, celle qu'il a fait, c'était vraiment un souhait qui était le sien.
C'était la condition qu'avait posée Liebermann pour venir, c'était non pas seulement la dissolution du chœur, mais il voulait absolument donner comme un signe fort de son arrivée le Moïse et Aaron de Schoenberg. On sait bien l'importance du chœur, la difficulté du chœur, etc. Et on avait dissous la totalité. Au début, on a dissous la troupe, puis ensuite, on a licencié la totalité des personnels, qui a permis à Duhamel, à leur ministre et à nous de rebattre les cartes et de négocier de nouvelles conventions collectives. Le chœur s'était constitué sottement, enfin tant mieux pour nous, mais tant pis pour lui, en un syndicat autonome, ne sachant pas jusqu'où on pouvait aller trop loin. Autrement dit, on a pu négocier des conventions collectives avec l'ANS à chacune des catégories socioprofessionnelles, le ballet, mais les chœurs n'ont pas voulu signer, convaincus qu'ils étaient, qu'on ne pouvait pas vivre sans eux. On a démontré que d'une part, on pouvait très bien vivre une ou deux saisons sans chœur fixe, et que grâce à cela, on a pu recruter ces Scholti, Liebermann, sous la présidence Daniel Le Sur, qui en 1972 ont recruté un chœur avec des voix jeunes, merveilleuses, et donc on a depuis lors, et en tout cas à l'époque, un des meilleurs chœurs d'opéra d'Europe grâce à cette circonstance.
Et puis, il y avait aussi le ballet. Et alors ça, le ballet, pour vous, pour le coup, c'est un petit peu vous, parce que je crois que vous nous l'avez dit déjà lors de la précédente émission, beaucoup intéressé à la danse, et particulièrement durant cette période.
Bah écoutez, j'avais le goût du ballet, j'avais vu beaucoup de danse, et Liebermann m'a dit, puisque ça vous intéresse, soyez auprès de moi celui qui veillera sur la danse. Alors, je me suis occupé du ballet. Le ballet de l'opéra venait de vivre un traumatisme. On avait fermé l'opéra comique, mais ça, c'était pas le fait de Liebermann. Il y avait à l'opéra comique un chœur, il y avait un orchestre, il y avait un ballet. Et le ballet était engagé sous une convention collective analogue à celui du ballet de l'opéra, et ses danseurs n'avaient pas démérité. On les a donc fusionnés avec le ballet de l'opéra, ce qui fait que le ballet est devenu un ballet de 150 danseurs, lequel n'avait pas beaucoup de scènes de temps sur le plateau pour s'exprimer. Bref, tout ça posait des problèmes, et puis il fallait aussi que l'on ramena à Paris un certain nombre de chorégraphes importants. Roland Petit n'avait pas souhaité continuer l'expérience qu'il avait débutée. Liebermann était très ami de Balanchine, de Robbins, de Caroline Carlson. Tout ça était une époque où j'ai mis en musique un peu ce qu'il souhaitait, et j'ai eu le plaisir et le grand bonheur de travailler avec des gens aussi remarquables que Balanchine, qui est venu beaucoup. On a eu un lien très fort avec le New York City Ballet, et pas seulement, avec aussi le Théâtre du Bolshoï et le théâtre Kirov. Je me suis beaucoup occupé d'aller en Russie. Tout cela était un peu mon champ d'action.
Dernier élément de cette période Liebermann, les œuvres récentes, les grands chefs-d'œuvre du XXe siècle, la Loulou d'Albenberg, évidemment, qu'il choisit de remonter à certains moments avec Patrice Chéreau et Pierre Boulez. Vous avez été de cette aventure-là aussi?
Oui, j'ai eu la chance de participer à cette aventure. Liebermann avait évidemment une grande admiration pour Albenberg, pour toute cette époque de la musique qu'il avait connu à Vienne. Il savait que la partition était incomplète, ou du moins qu'elle n'avait pas été totalement orchestrée. Il a demandé à Friedrich Zerha d'orchestrer les 20 minutes, 25 minutes, que sais-je, de ce qu'on appelle l'acte de Paris, de telle sorte que l'équilibre de la pièce soit retrouvé, qui est en totale symétrie. Et donc, cette représentation, cette production, il l'a confiée à Pierre Boulez, qui était enthousiaste de la chose, avec son ami Patrice Chéreau. Ils étaient indissociables l'un l'autre, avec le décor de Peduzzi, Teresa Stratas, Yvonne Minton, etc. Tout ça a donné lieu à des représentations inoubliables, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une captation. et surtout d'une première qui était surprenante, parce que sont venus là, à l'Opéra de Paris, des musiciens du monde entier, des hommes politiques comme le chancelier Schmitt, etc., le Premier ministre Raymond Barre, qui était un grand mélomane. Enfin, tout ça a été un moment très fort du mandat Liberman lors de sa dernière année. C'est d'autant plus fort que l'ouvrage qu'il lui avait commandé à Olivier Messiaen, le Saint-François d'Assise, n'avait pas pu être terminé. Il le serait plus tard et donné après le départ d'Liberman en 83. Donc un des grands moments de ce mandat, ça a été cette première de Loulou, donnée par la suite à la Scala et partout ailleurs.
Un grand moment aussi parce que les politiques y étaient, vous le dites bien, c'était l'époque où le personnel politique s'intéressait encore un peu à l'opéra.
Permettez-moi d'apporter une nuance. Les hommes politiques savaient que ça existait. Lorsqu'on disait Loulou à Raymond Barre, ils ne demandaient pas si c'était un bistrot de Pigalle. Et quant au chancelier Schmitt, évidemment, il pouvait vous enchanter toutes les notes.
Les derniers mots de la comtesse Geschwitz à la toute fin de l'opéra d'Alban Berg, Loulou, dirigé en 1979 par Pierre Boulez, l'un des grands moments de cette ère Liberman dont nous parlait Hugal dans cette émission. Merci à Maud Nourry, Antoine Courtin et Bernard Laniel. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le troisième épisode de notre mémoire d'opéra consacré à Hugal. Ce seront les années bonheur. Il est midi sur France Musique et nous avons rendez-vous tous les dimanches de cet été avec Nathalie Moller. Une heure pour danser.